Au football, les camps d'entraînement peuvent paraître longs à certains joueurs déjà assurés de leur poste, mais ils semblent bien courts pour celui qui arrive au football professionnel ou qui tente de s'accrocher à sa carrière. Dans moins de 12 heures, les équipes de la Ligue canadienne devront remettre leur liste officielle. Plus de 200 footballeurs se retrouveront en recherche d'emploi. D'ici là, une dernière chance de se faire valoir. Tiger Cats, Alouette, au réseau Cogeco.
Le football des Alouettes. Au réseau Cogeco, c'est le football des Alouettes de Montréal. Retrouvons à l'analyse Jacques Dussault, à la description Jean-Saint-Onge.
Bon avant-midi, mesdames, messieurs. 11h30 pour commencer un match de football. Donc, ça me prenait un lève-tôt. Mon ancien co-animateur du matin, le coach Jacques Dussault. Comment ça va, coach?
Ah, ça va très bien, mais je peux te corriger de suite. Je suis loin d'être un lève-tôt.
Ben voyons, tu t'es levé pendant quoi, 2 ans avec moi tous les matins pour travailler à 6 heures?
Fais attention, je me suis levé pour me rendre avec toi faire l'émission.
Hey, dans l'ouverture, je disais, il y en a qui trouvent ça long, des camps d'entraînement, il y en a qui trouvent ça court, selon si on est déjà assuré d'une job ou pas. Et 2 matchs préparatoires, c'est pas beaucoup. Et les équipes abordent ça de différentes façons. Aujourd'hui, on a les Alouettes avec la majorité de leurs joueurs réguliers, pendant que Hamilton en a 29 joueurs de première année. On a vu Edmonton, quand ils ont joué chez eux, Mike Riley, traverser le terrain 2 fois, bonsoir, sa préparation était finie. Du côté des Alouettes, est-ce que c'est différent des autres équipes? Parce que, dans le fond, on a une nouvelle formation cette année.
Oui, Jean, pour ajouter à ce que tu as dit aussi, du côté de Toronto, Rick Erie n'a même pas joué, lui. James Wilder non plus, puis il y en a plusieurs autres qui ont même pas mis le pied sur le terrain. On connaît Mark Trestman. Du côté des Alouettes, je m'en allais utiliser le mot problème, mais non, c'est un défi. Premièrement, t'es encore en train d'auditionner des joueurs, mais des joueurs pour des positions clés. On regarde ça rapidement là. Si on compare la charte de profondeur de l'année passée lors du premier match, puis aujourd'hui ce qu'on a, on sait que ça va changer là. Sur les 24 partants, ben il y en a juste 6.
Aïe aïe.
Fait qu'il y a beaucoup de mouvements. Tu dois en plus de ça découvrir qui va être ton corps arrière. Parce que lors du dernier match contre Ottawa, ça n'a pas été convaincant du côté de Drew Ely. Ça a bien parti. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu au niveau de la façon dont on a géré notre attaque. On a couru avec Sutton, des passes à haut pourcentage d'efficacité du côté des Alouettes. Ça, c'est correct. Défensivement, il y a eu des manques de communication. Ça, c'est normal. Je veux dire, il y a beaucoup de nouveaux venus. Le manque de communication, ça se corrige. Le manque de talent, ça se corrige pas. Maintenant, pour ajouter à tout ça, c'est-à-dire qu'on cherche des joueurs, c'est que là, faut apprendre un nouveau système à l'attaque en plus avec Kerry Jones. Puis avec Coach Tubler, un nouveau système au niveau de la défensive. Et puis avec Donovan, un nouveau système au niveau des unités spéciales. Fait que deux matchs préparatoires, tout essayer de faire ça en même temps, c'est une grosse commande. Mais
est-ce que c'est important de gagner? Parce qu'on sait, quand on les perd, on dit « Oh, on est en préparation ». Quand on les gagne, ça nous donne un momentum. Est-ce que c'est important pour les Alouettes de gagner aujourd'hui?
Bien, on a perdu nos 2 derniers matchs. L'année passée, on a gagné un match contre Ottawa 38-5. On a perdu de justesse 24-20 contre Toronto. Il n'y a pas une équipe qui embarque sur le terrain pour ne pas gagner. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est là qu'est le dilemme. C'est quand tu veux évaluer quelqu'un, ben ça prend plus qu'un jeu pour l'évaluer. Là, aujourd'hui, je suis pas dans les souliers de Coach Sherman, mais le scénario parfait, c'est que Drew Ely traverse le terrain à 1 ou 2 occasions, 2 touchés, puis là, on l'envoie sur le banc, puis là, on essaie de voir qui devrait être notre deuxième carrière partant, parce que là, je pense que c'est assez clair que c'est Drew Ely qui est partant. De l'autre côté, chez les Tiger Cats d'Hamilton, c'était une catastrophe lors de leur premier match. C'est 10 revirements qu'on a commis.
Incroyable.
Jeremiah Mazzoli, lui, a lancé 2 interceptions, une passe de toucher. Tu sais,
là, il n'est même pas ici aujourd'hui.
Non, ça veut dire que... Mais ça, c'est... ça met du poids à ce qu'on est en train de se dire. Ça veut dire qu'eux autres, c'est déjà pris la décision. Tandis qu'ici, elle est prise, mais on n'est pas sûr parce que si la prestation de Drew Whaley n'a pas été moins bonne que celle de Mazzoli, donc si on était sûr à 100%, il ne sera pas là aujourd'hui. Parce que là, ça tombe partout, là. C'est un hécatombe à travers la Ligue canadienne de football.
Matt Nichols, du côté de Winnipeg, 4 à 6 semaines. Et hier, Zach Collaros, on ne sait pas s'il va manquer du temps, mais il s'est fait plier en 3 par les joueurs de Calgary.
Oui, puis là, tu regardes du côté de l'Ottawa avec Harris, aussi, qui s'est fait blesser en début de match. Là, on ne le sait pas non plus. La bonne nouvelle pour les partisans de Rouge et Noir, c'est qu'on a commencé, on a un bail dès la première semaine. Fait qu'on va être capable peut-être de le remettre sur patte, mais c'est pas solide là au niveau des corps arrière. Si tu regardes rapidement dans l'Est, l'équipe qui semble être la mieux nantie, ce sont les Argonauts de Toronto. Parce qu'avec Ricky Ray, la procédure de Franklin, il y a des batteurs qui sont pour le deuxième, mais des belles batteurs. Pas des batteurs par défaut parce que ça te prend un deuxième.
Alors que dans l'Ouest, ça semble, si Collaros amorce la saison, ça semble assez bien parti avec Bolivar Mitchell, d'un côté Mike Riley.
Je vais te dire une chose, il y a Regina, là, je suis pas encore sûr.
Collaros, premièrement, va-t-il être en santé?
Puis Brandon Bridges, j'aime ce bonhomme-là, mais je sais pas, ça accroche un peu, Je suis pas encore vendu à 100%, mais Marc-Bain, c'est pas important parce que c'est pas moi qui prends la décision.
Hey, les Alouettes ont une équipe complètement transformée. L'année passée, en début de saison, on se posait des questions sur l'attaque. Elle est changée passablement. Ceux qui sont partis, les joueurs majeurs, Darian Durant, naturellement, au poste de quart. Nick Lewis, Sam Giguère comme receveur de passe. Brandon Rutley comme porteur de ballon. Giovanna Lafoyer. Les éléments et Jean-Christophe Beaulieu. Ceux qu'on a amenés, Chris Williams, receveur de passe, Pat Lavoie à la place de Jean-Christophe et Ryan Bumbin.
Ben là, j'aurais pu t'arrêter directement après Chris Williams.
Pourquoi?
Parce que c'est ce qui a manqué aux Alouettes depuis beaucoup d'années. Ton meilleur receveur de passe pendant pratiquement une décennie, c'était Ben Cahoon. Mais Ben Cahoon, c'était pas un marchand de vitesse, mais tout de même, c'est un gars qui avait assez d'habileté et surtout de compréhension du jeu pour être à découvert. Mais là, avec Chris Williams, aujourd'hui, c'est crucial qu'on envoie un message à travers la Ligue, Jean, qu'on a cet aspect-là de vitesse. Parce que l'année passée, où on a eu des problèmes, c'est qu'on a commencé à vouloir se servir d'un gars comme Ernest Jackson, lui faire courir des tracés. C'est pas les tracés à Ernest Jackson. Les gens vont dire, ouais, mais là, il faut que tu sois capable de courir pas mal de clés tracées. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Si jamais Williams est capable d'étirer le terrain, Jean, à ce moment-là, ça va ouvrir énormément l'attaque du côté des Alouettes. Donc, moi, là, je serais vraiment, vraiment surpris, ce sera pas la première fois, ni la dernière fois, si aujourd'hui, il y a pas deux, trois fois, on tente le long jeu du côté de Williams, et puis, là, on se croise les doigts en se disant s'il pouvait en attraper une et être derrière la défensive des Tiger Cats d'Hamilton, parce que là, ça se promène partout, là, les vidéos de ces matchs-là, les gens vont dire « Oups, faut faire attention ». Tu joues pas de la même façon défensivement, Jean, quand tu n'as pas à respecter un joueur au niveau de la vitesse du côté de ton adversaire.
Ligne à l'attaque. Ça fait 3 semaines que le camp d'entraînement est commencé. J'ai vu minimum 3 séances d'entraînement par semaine. Et je sais pas encore qui va être cette ligne à l'attaque parce que on a utilisé toutes les combinaisons possibles. Christian Hamad va être le joueur de centre partant. Xavier Fulton va être le bloqueur à gauche. Philippe Blake devrait être le garde à gauche, mais il a aussi joué à droite puis il a aussi joué comme bloqueur à droite.
Là, il est supposé jouer à droite aujourd'hui. Puis là, ça va être le jeune... la recrue Rutherford, le premier joueur pêcheur des Alouettes qui va jouer à gauche. C'est ce qu'on dit. Là, on remarque bien que ce qu'on dit puis ce qui arrive durant les matchs pré-saison, des fois c'est deux. Mais c'est certain qu'il ne faut pas minimiser. Là, les gens disent, oui, mais garde, joue à ligne à l'attaque, tu peux jouer.
Bloqueur à gauche. Pas pareil à droite puis à gauche.
Le bloqueur à gauche, c'est pas la même affaire qu'un bloqueur à droite. Joueur de centre, c'est pas pareil. Puis les deux gardes, c'est pas pareil. Surtout le garde à droite, souvent va faire face à un gars qui a plus d'habilité pour mettre de la pression sur le carrière, parce que le joueur de centre a l'habitude, selon, il y a des protections qui sont différentes, mais il va aller aider vers sa gauche. Il va aller aider, on va aller aider du côté de Rutherford. Tandis que le garde à droite, lui, il va être laissé à lui-même. Et là, c'est la seule personne qu'on peut pas aider. Tu peux aider des bloqueurs, Jean, en mettant ton porteur de ballon, ton centre arrière en mouvement. Il va arriver, il va aider un petit peu sur le... il va aider un petit peu sur l'allié défensif dominant de l'autre équipe. Mais là, lui, il est tout seul. Il n'y a pas personne qui peut l'aider. À ce moment-là, on dit en langage de football, un two-way-go. Ça veut dire qu'il peut, attaquer en situation de passe à droite ou à gauche de ce garde-là. Donc, ça prend quelqu'un qui est plus athlétique.
Du côté de la défense des Alouettes, tu parlais tantôt des joueurs différents depuis le premier ou le dernier match l'année dernière. C'est particulièrement évident au cours du côté de la défense, parce que si du côté de l'attaque, on a quelques receveurs de passes qui se ressemblent, c'est à peu près tout. Du côté de la défense, il nous reste Westerman, il ne faut pas que je les mélange parce qu'ils sont là tous les deux. Il nous reste Jabbar, le
plaqueur. Il reste un.
À part de ça, il reste qui?
Il reste, si tu regardes avec ce qu'on a vu lors du premier match de la saison régulière l'année passée, il y en a juste un. Parce que je prends pour acquis que Cox ne sera pas partant aujourd'hui, ça va être Chris Hackey. Mais je vais te dire une chose, c'est que je suis moins inquiet pour la défensive des Alouettes que pour l'attaque. Parce que avec Rich Stubler, il est allé à Toronto à un moment donné, puis on lui a donné quasiment 12 étrangers, 12 personnes
qui ne se connaissaient pas.
Ben non, et puis c'est un gars qui, tu vas voir, la défensive va s'améliorer de match en match. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que en début de saison, si l'attaque, le problème ou le dilemme, c'est que il va falloir que les unités spéciales jouent bien, puis si l'attaque, ça prend toujours un petit peu plus de temps, là, t'as pas de gros vétérans à la position de corps arrière. C'est d'habitude, c'est la défensive qui se tient le fort. Mais là, c'est tout.
Ça donne pas le temps à cette défensive de se battre.
Ben, c'est ça qu'on va voir. Et puis la beauté, il y a deux bonnes nouvelles pour les gens qui couvrent les Alouettes, nous autres, les partisans, c'est que on joue dans l'Est. Puis je dis pas ça méchamment, mais ça arrive comme ça. Et puis tu regardes, puis j'ai l'impression que ça va être accessible. Donc ça devrait aider les Alouettes. L'autre bonne nouvelle, puis ça, je veux pas être méchant, c'est que Ottawa a peut-être perdu leur carrière partant. Celui qui le remplace, Davis, joue bien, mais
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Donc, on pourrait avoir un bon départ. Là, tu joues contre. Tu vas jouer de bonne heure dans la saison contre Winnipeg, qui aura pas Matt Nichols. Pas de corps arrière, là. C'est difficile. Tu joues contre Regina aussi. C'est peut-être problématique au niveau des corps arrière. Fait que tu pourrais avoir tout de même un bon début de saison. Mais ça va être très, très, très intéressant de savoir comment est-ce que cette équipe-là va évoluer. Ouais.
Progresser. Hey, d'ailleurs, tu as parlé de Winnipeg. J'ai regardé un peu le match hier contre la Colombie-Britannique. J'ai pensé à toi pendant le match parce qu'il y a eu un botté bloqué. Le gars qui l'a bloqué, c'est un gars des Carabins. Puis le gars qui effectuait le botté, c'est un gars des Carabins.
Oui,
alors que Chagnon a bloqué le botté de Ménard-Brière. C'est le fun à voir. Le contenu canadien dans la Ligue canadienne, c'est super important. Kevin Sweed nous a dit en début de saison ou au début du camp qu'il croyait avoir sensiblement amélioré le contenu canadien. Au niveau de la qualité, avec la signature de l'ailier défensif Westerman et de Enoch Mwamba au centre de la défense. Cependant, ça c'est bon pour avoir les 7 partants. Parce que là, on a les deux frères Westerman, on a Mwamba, on a Chris Hackey.
Mais énerve-toi pas trop vite, Jean.
Mais ça en prend 21 en uniforme des joueurs canadiens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des recrues qui vont être obligées d'être habillées.
Ben là, le contenu canadien, là, le plus important, c'est que tu as un noyau de 8 à 9 joueurs qui sont sur toutes tes unités spéciales. Botté, retour de botté d'envol, botté d'envol.
Parce que, exemple, un gars comme Jean-Samuel Blanc a fait au cours des dernières saisons.
Nicolas Boulay.
Nicolas Boulay qui est blessé présentement.
T'es partant d'habitude, t'en mets un sur le botté, mais tu ne mets pas sur le retour de botté parce que là, il va être brûlé.
C'est ça.
Fait que c'est à ce niveau-là que ça va être intéressant de voir est-ce qu'on s'est vraiment amélioré au niveau canadien.
À suivre. Au retour, on va parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue, notamment celui qu'on va voir aujourd'hui plus longtemps que lors du premier match, selon son entraîneur-chef, June Jones. Johnny Football, Johnny Manziel, qui s'amène dans la Ligue canadienne. On en a vu des gros noms arriver. Il y en a qui sont repartis vite aussi. On fait une pause. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, de retour au football des Alouettes avec Jacques Dussault et Jean-Saint-Onge.
On a parlé des nombreux changements au sein de la formation des Alouettes, mais on n'a pas parlé des changements d'entraîneur. Il nous en reste deux de la dernière édition. Un qui s'occupe des demi-défensifs, Billy Parker, qui est passé directement, lui, du terrain comme joueur entraîneur des demi-défensifs. Et celui qui a occupé à peu près tous les jobs en attaque, André Bolduc. On lui a demandé ce qu'il s'attendait aujourd'hui de l'attaque montréalaise et de son quart, Drew Willey.
Bien, on s'attend à une attaque rythmée. On veut que les partants aient de la cohésion entre eux autres. On veut marquer les points, là. C'est certain qu'on n'a pas besoin de mentionner ça, mais on veut des longues séquences. On veut être capable d'avoir 5, 6, 7 jeux de suite, bouger le ballon efficacement. On veut être capable là, de repérer les receveurs qui sont libres rapidement, faire les jeux. Je vous cacherai pas non plus qu'on veut courir le ballon. On est une équipe qui, cette année, va établir la course au sol à chaque semaine.
Pour établir la course et pour protéger un quart qui a peut-être besoin d'aide, ça prend une bonne ligne à l'attaque. On a eu toutes sortes de combinaisons jusqu'à présent. Savez-vous, c'est qui votre ligne à l'attaque numéro un cette année ou on est encore au stade des expériences?
Je pense qu'il y a encore des batailles, je dirais, à certains postes. On a une bonne idée, ça va être quoi, là, on ne se le cachera pas parce qu'on en parle beaucoup. Mais il y a quand même des batailles. Il y a des gars qui se démarquent, puis il y en a que c'est difficile à savoir en ce moment qui va être numéro un. Mais la réalité, c'est qu'on va avoir besoin de tout ce monde-là avec les blessures. Alors, les répétitions que ces gars-là ont en ce moment, c'est très positif parce que lorsqu'il va avoir les blessures, ben le prochain va être prêt à jouer aussi.
Qu'est-ce que Drew Willey doit faire pour montrer qu'il est un numéro un dans la Ligue canadienne?
C'est la constance. Hein? Un carrière, on veut compléter les ballons avec constance, avec un haut pourcentage. Alors ça, c'est essentiel que Drew complète des passes avec un haut pourcentage. C'est 80, ce sera 80. On est super exigeant avec lui. On veut pas qu'il tienne le ballon trop longtemps. Donc, on lui a reproché ça dans le passé. C'est un gars qui hésitait. Alors, on a plein de mécanismes où il peut envoyer des passes courtes en impliquant tout le monde, mais les porteurs aussi. Alors, tous les éléments sont là pour qu'il puisse se débarrasser le ballon, comme il l'a fait dans la série ou deux auxquelles il a participé contre Ottawa. On veut que ça se poursuive. On veut évidemment l'aider avec l'attaque au sol, mais on veut surtout le protéger.
Merci beaucoup. Bon match.
Plaisir.
Surtout le protéger. Hey, on a parlé de la ligne d'attaque. On a parlé. Moi, quand ils sont allés chercher Ryan Bumbun, là, cette année, j'ai fait comme, oh, est-ce qu'ils veulent repêcher le receveur de passe au lieu d'un joueur de ligne? Parce que là, on s'est ramassé. Il y a Philippe Gagnon qui va revenir éventuellement. Luc Brodeur-Jourdain qui est là comme réserviste. Christian Matt, des bloqueurs canadiens. Il y en a en masse. Il y a de la profondeur. Tantôt, on parlait du contenu canadien. Ces joueurs-là, l'ennui, le bon côté, c'est qu'on a de la profondeur. Le moins bon côté, ce sont tous des gardes ou des centres.
Ben, je veux dire, je suis d'accord avec Kevin Reed quand il dit que à 50% que le talent canadien s'est amélioré parce qu'on a beaucoup plus de profondeur au niveau de la ligne à l'attaque. Le petit hic, ça je voulais juste le mentionner rapidement, c'est que ces gars-là ne jouent pas sur les unités spéciales. Et puis à chaque match, on habille
les joueurs de ligne à l'attaque, il n'y en a pas du tout. Ben oui, avant, sur le botté de précision.
Oui, c'est ça. Mais là,
that's it.
C'est ça. Il y avait Luc Brodeur-Jourdain là, qui a joué...
Là, il y a deux ans.
Ouais, c'était pas... en tout cas.
Pour lui permettre de contribuer.
Ah, oh, ouais, non. Je veux dire, là, à ce moment, je veux pas revenir là-dessus parce que un entraîneur aurait dû mettre ses culottes et dire, regarde, là, Luc, va pas te mettre là-dessus pour te blesser encore plus.
J'ai l'impression que quelqu'un lui a permis de jouer pour qu'il puisse récolter un boni de.
Ouais, ben là, Gabin, là,
pour avoir un uniforme.
C'est toi qui es le gérant général. Donne-y le boni, petit gars. Arrête de jouer. Mais comme je le mentionnais, ces gars-là n'ont aucun apport pratiquement. Pas aucun apport au niveau des unités spéciales, puis on en habille ça, 6 par match.
C'est ça, on habille seulement 6 joueurs.
On a de la profondeur.
À l'occasion, est-ce qu'on en habille 7?
Ça, c'est rare, mais ça arrive.
S'il y en a un qui est blessé, puis il y a un cas douteux.
Non, ça va arriver dans les occasions où on a dans notre plan de match, on veut pas le dévoiler à l'équipe adverse, où on va y aller avec deux ailiers rapprochés, mais là, on veut y aller avec des ailiers rapprochés qui sont des joueurs de ligne à l'attaque.
Tu sais, à l'époque où Bombun était ici, avant de l'échanger.
Il captait des passes, tout ça, c'est ça. Fait que là, t'es plus gros physiquement, c'est pas pareil, tu veux y aller avec deux ailiers rapprochés, puis te tourer d'un bord, puis t'es Timmons de l'autre. C'est plus dangereux pour les passes, mais physiquement, c'est pas la même affaire qu'avoir un joueur de ligne à l'attaque devant toi.
Maintenant, jetons un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs dans la Ligue canadienne. Cet après-midi, pas pour amorcer le match, mais comme deuxième quart du côté des Tiger Cats, et semble-t-il pour une plus longue période que lors du premier match contre Toronto, on devrait voir Johnny Football, Johnny Manziel. C'est longtemps qu'on n'a pas vu un joueur arriver dans la Ligue canadienne avec autant de tambours et trompettes.
Oui, mais c'est la façon dont Manziel a composé avec les tambours et les trompettes, excuse-moi. Parce que c'est vraiment, moi j'ai été impressionné par ce gars-là.
Ah oui?
Il est sobre. Dans ses entrevues, j'ai vu une entrevue TSN.
Il est sobre dans ses entrevues, tu parles du propos, là.
Oui, comme toujours, Jean, tu sais que je recherche jamais le sensationnalisme.
Mais être sobre dans le cas de Manziel...
Arrête, on n'est pas là pour parler de ça. On parle de Johnny
Manziel. C'est important pour lui.
Laisse faire lui, là. On parle du joueur de football, ce qu'il fait sur le terrain.
Okay, il a été sobre.
Il a été sobre, parce que là... on va tomber dans un sobre opera. Mais j'ai trouvé, tu sais, il dit toutes les bonnes choses. Pour en venir à ce que tu insistes, sur ce que tu insistes à dire, là, maintenant, c'est beau parler, il faut que les actions soient conséquentes. Maintenant, moi, je lui ai donné la note de B- pour son premier match. Ça reste, vous avez 2 ans qu'il n'avait pas joué. Pratiquement pas de camp d'entraînement. Il est arrivé avec un... C'est du football différent. On va arrêter là, d'essayer de comparer à gauche et à droite. C'est pas le même jeu. Sauf que tu attrapes un ballon puis tu plaques. Mais les règlements sont différents. Il y a plus de joueurs. Les dimensions du terrain, en tout cas. On pourrait en nommer pendant 10, 15, 20 minutes. Mais là, moi, où je regarde ça aller, là, ça peut devenir un sérieux problème, Johnny Manziel.
Dans quel sens?
Parce que là, Jeremy Mazzoli, là, il se fait dire toutes sortes de belles choses.
Il était 0-8 l'année passée quand il est devenu quart partant.
Ben oui, c'est là qu'ils ont remonté la pente et tout ça. Là, tu joues le premier match, puis Mazzoli embarque à Hamilton, puis c'est tranquille. T'as coup, Johnny Manziel met les pieds sur le terrain, tout le monde fait le signe, son fameux signe où il fait un signe de pièce avec les deux mains. Tout le monde parle de lui, personne ne parle de Mazzoli. C'est comme ça te donne l'impression de l'extérieur qu'on attend que Mazzoli s'en parle. Et puis ça, je sais pas comment c'est vécu dans le vestiaire du côté des Tiger Cats d'Hamilton Bay. Strictement en tant que joueur, c'était correct.
Qu'est-ce que tu aurais aimé voir de plus? Parce que, compte tenu que ça faisait longtemps qu'il avait pas joué,
je veux dire, ce que j'aurais aimé vouloir de plus, je pouvais pas vraiment. Parce que c'était tellement nouveau. J'ai trouvé... j'aurais pensé qu'il était un peu plus mobile que ça. À certaines occasions, il s'est fait rattraper, mais parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aussi. Les angles avec les lignes de côté. On s'est vu à un moment donné, il s'est débarrassé du ballon. Ça s'est pas rendu au fameux marqueur.
Ouais, faudrait peut-être voir la reprise.
Oui, ben c'est ça. Fait que lui, il disait que ça, fait qu'il y a eu une pénalité pour s'être débarrassé du ballon. Les choses que j'ai aimées, c'est qu'on voit tout de suite que aussitôt que ce gars-là sort de la poche protectrice, les yeux se regardent pour repêcher, repérer ce receveur. Il l'a fait avec Speedy Banks, qui a traversé totalement le terrain, à peu près 50 verges. Il était patient, puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être intéressant de voir quelle est sa progression. Mais la conclusion de tout ça, là, Johnny Manziel, là, il n'est pas ici pour être assis sur le banc à peu près 0, moins 5 au mois d'octobre à Winnipeg quand il vend et on gèle.
Certains disent, le compare déjà, avant qu'il arrive, le comparait déjà à Doug Flutie en raison de ses qualités athlétiques.
Non. Non, tu ne peux pas faire ça parce que Doug Flutie, tout était correct. Tout était correct au niveau de la personne. Au niveau, tu sais, il n'est pas arrivé avec en réhabilitation quoi que ce soit, là. Tu sais, Doug Flutie, c'est un joueur spécial. J'ai jamais vu un gars improviser comme ça. Puis, rarement, il se trompait pas, là. Puis, c'était pas un gars qui était facile à plaquer, puis tout ça. C'est un gars que il n'a pas un gros gabarit, là, Johnny Manziel, 6 pieds, 200, 205 peut-être. Ils vont peut-être dire 210 pour lui faire plaisir. Flutie, c'est sur le bout des pieds, 5 pieds neufs. Là.
Avec des souliers neufs.
Ouais, c'est ça. Il avait pas le plus gros bras, mais son intelligence du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, Jean, on voit pas ça souvent. Pour les gens qui sont maniaques de football, j'en ai vu un l'année passée. Il était repêché dans la NFL, Baker Mayfield. Ça, c'est. J'avais jamais vu ça, un jeune.
Ah oui?
Être capable de gérer un match de football comme lui.
Lui, c'est jamais. Cleveland qui l'a ramassé?
Exactement. Là, ça, c'est la moins bonne nouvelle.
Est-ce que les Browns de Cleveland, après avoir raté leur coup avec Manziel, ont finalement trouvé un quart pour mener leur
Ils
équipe?
Ils ratent toujours leur coup avec les quarts. Moi, ça a coûté l'emploi de mon bon ami Chris Palmer, qui est entraîneur-chef, avec Couch, je pense qu'il s'appelait.
Tim Couch.
Oui, et puis c'est ça. Là. Tu vis aussi longtemps que ton corps arrière produit. Mais A plus à June Jones, la façon dont il a géré Manziel. Il a pas pris de remise du joueur de centre les deux, trois premières journées. Parce qu'il savait que tout le monde était là avec les caméras. Parce que là, je sais pas s'il y a plus de gens qui veulent que Manziel réussisse ou plus de gens qui veulent que Manziel s'en fasse. Parce que là, le partisan de la Ligue canadienne de football qui se fait toujours rabâcher des oreilles que c'est une ligue de deuxième ordre puis que c'est pas bon. Ben, les autres, ils veulent que Manziel en mange une bonne pour dire, regarde, là, c'était si pas bon que ça, là.
Il aurait dominé.
Il y a des gens qui trouvent que c'est une belle histoire, s'il peut se reprendre en main. Fait que ça, encore une fois, là, ça va être intéressant. Mais quand la saison va commencer, si Hamilton devait commencer la saison avec Manziel à la position de corps arrière, c'est catastrophe. Je veux pas être trop technique. La grosse différence dans la Ligue canadienne, c'est la panoplie de blitz. De match en match, il y a des nouveaux blitz de partout. Tu regardes dans la NFL, voir le blitz du demi de coin, tu vois deux secondeurs de ligne qui rentrent dans ce qu'on appelle les gaps A, entre le centre et le garde. C'est à peu près ça, là. Il n'y en a pas 75 autres, là.
Mais parce qu'aussitôt qu'ils s'exposent, ils peuvent se faire...
Oui, mais c'est la même chose ici, mais t'as pas le temps parce que ça vient de partout. Puis tu regardes les défensives, souvent, ils sont debout. Là, tu sais, les joueurs se déplacent à gauche et à droite. Ça, c'était une des forces de Noel Thorpe.
Et ça semble être aussi le cas avec M. Stubler parce que ça bouge beaucoup, ces défenses. Des fois, trois joueurs de ligne, des fois quatre.
Ouais, mais
on
ça,
amène
c'est...
la pression différente.
Oui, mais trois joueurs de ligne, je pense que ça, c'est comme ça à travers la ligue. En situation de passe, tu dis, on va mettre de la pression à trois, et puis on couvre à neuf. Parce que là, c'est difficile d'aider les bloqueurs. Les bloqueurs, ça prend un bon gars qui est devant le centre. Là, t'es deux autres gars à l'extérieur des bloqueurs. Qui va aller les aider? Il y a un garde, peut-être, mais c'est pas évident, là. Puis tu regardes ça, souvent, t'as plus de sacs du corps arrière quand tu joues ce genre de front-là. Pourquoi? Parce que là, 9 joueurs qui sont en couverture de passe. Je veux bien croire que le terrain est large, là, mais il n'y a plus bien d'espace.
Il manque d'espace pour lancer le ballon. Hey, ils ont changé des règlements, comme c'est toujours le cas. Il y en a un qui ont changé. Je pense que ça doit te faire plaisir.
Ah oui, le fameux règlement où on pouvait aller voir à la reprise vidéo s'il y avait un contact avec un receveur, c'était ridicule, Jean. Tu avais un tracé de passe qui se faisait à droite, le gars marquait un toucher. Puis là, à 60 verges plus loin, il y a un gars qui avait mis ses mains sur un demi-défensif. On avait engagé des gars juste pour ça, pour regarder les receveurs à l'opposé du tracé. On allait à la reprise vidéo, contact illégal, pas de toucher. Fait que ça, on a enlevé ça. Chapeau, là, je peux pas être plus d'accord avec ça.
On va enlever notre chapeau, nous, pour l'hymne national. On s'en va en pause. Au retour, le botté d'envoi de ce match préparatoire entre les Tiger Cats et les Alouettes. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.